ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli. Écrire en primitive passion, le bruit des écrits, le taire de soi, écrire pour que cesse la régurgitation. Écrire me tiendrait lieu de corps, lieu du corps. Écrire de l'irracontable, ce réel, ce ciel, ce regard, ce mot, cette étreinte de la matière, traversée d'instants, de joie, de coups à la trace, impressionnée. Une peau, un cœur, un œil, tatoué de motifs. Écrire des brisures, des éclats, des morceaux, parce qu'on ne sait jamais quoi faire avec des morceaux, parce que ne voit pas le monde en une narration, parce que ne considère pas que seule la narration dit le monde, même s'il nous faut des histoires pour ne pas mourir. Ne fabrique rien avec les pièces. Je regarde les pièces, je visite les pièces, je change de place les pièces. Elles demeurent des pièces à côté l'une de l'autre, cabossées, dans une grande solitude. Même si ce n'est pas rien déjà d'être à côté, je ne cherche pas à rapprocher les pointillés, mais à les reconnaître. Je désaligne, je portraitise. Écrire parce que le langage est un échec, parce que la parole est une défaite, parce qu'au profond du réel, l'urgence de la vision, parce qu'il y a du dire sous le dire, à côté. Écrire, exiger du langage, exiger non de son face-à-face de vivant, mais de sa déface. Exiger du langage pour approcher l'humain. Écrire, une attention extrême portée à. Écrire n'est pas tendresse donnée à soi-même. Se hanter de mots, écrire plie le ressassement. Écrire excède, comme l'ombre, une ombre. Écrire pour respirer nouvellement, lire idem. Écrire mon excès, mon souci, mon extravagance, mon acte, mon engagement, ma responsabilité, ma tentation de désinvolture, mon sérieux, mon mordant, ma quête de justice, mon détour pour parvenir à l'exacte exactitude, mon impalpable matériau, mon acuité en quête d'abandon. Écrire est une panique, une calme panique, une panique de désir, un désir de... Désir de liberté. Bonjour et bienvenue à vous dans cette émission de mars. Vous venez d'entendre un texte que j'ai trouvé sur le site d'Hélène Lanscott. Appelons cela une entrée en matière qui donne déjà quelques pistes sur cette autrice que nous accueillons les vendredis 28 et samedi 29 mars prochains à Bourg-en-Bresse dans le cadre du Printemps des poètes de Voix mêlée. Je vous en dirai plus en fin d'émission sur ces deux rendez-vous. Pour l'heure, je vous convie à une découverte de l'univers poétique d'Hélène Lanscott à travers une lecture de 10 textes que j'ai choisis dans son dernier recueil intitulé « Ma femme, cet animal », publié à l'automne 2024 aux éditions Chêne dans la collection Grand Fond. Une collection qui se définit ainsi sur la quatrième de couverture. Il y a des livres qui fabriquent leur propre forme. Prose poétique, fragments, récits autofictifs, exploration imaginaire ou essais non académiques. La collection Grand Fond récolte ces textes uniques en leur genre, qui ont en commun la puissance de la langue, la liberté de leur voix. Eh bien, ce libellé auquel je n'avais pas pris garde avant de lire l'ouvrage, et que je découvre à l'heure où je prépare cette émission, me paraît très approprié pour définir l'univers dans lequel on entre avec la lecture de « Ma femme, cet animal ». En effet, on est à la croisée du poème et du fragment, dans quelque chose qui mêle le réel et l'imaginaire, avec une touche de mystère, une pincée d'humour, quelque chose qui laisse pantois, parfois, mais surtout fait entrevoir des échappées, des voix originales, des pas de côté, et permet de poser un autre regard sur la réalité. Je précise que dans le titre choisi par Hélène Lanscott, « Ma femme, cet animal », elle utilise le féminin pour cet animal. Et la lecture du recueil me fait dire que le choix du féminin décrit le lien étroit de cette femme avec le monde animal, alors que cet animal au masculin identifierait la femme à un animal. Ainsi, au fil des pages, se dessine à travers les yeux d'un narrateur masculin, son compagnon de vie, le portrait d'une femme qui, comme vous allez l'entendre, a un rapport singulier avec la nature et le monde animal, et comme guidée par son instinct, une femme qui s'étonne au sens fort de ce qu'elle voit, sent et entend autour d'elle, et dont l'acuité sensorielle s'exerce en permanence. Une femme, enfin, dont le comportement intrigue ou amuse son compagnon, et questionne aussi la relation amoureuse. Quelques mots avant la lecture pour vous situer Hélène Lanscott. Elle est née en 1960 et vit actuellement entre Paris et le département du Lot. Avant l'écriture, elle a été et reste aujourd'hui lectrice à voix haute. Ainsi, elle a rejoint en 2001 le collectif d'artistes Les Souffleurs Commando Poétique. En 2002, chez Chêne Éditeur, dans la même collection Grand Fonds, elle publie « Simplement descendu d'un étage ». Puis viennent chez L'Escampette Éditeur, « Portrait sauvage » en 2007, « Rouge Avril » en 2011 et « Pas prête » en 2014. Et chez Arléa, en 2020, elle publie « Fringale ». Ajoutons à cela, en 2013, un album jeunesse, « J'aime pas les contes », sans oublier des publications en revue, et dans les anthologies du Printemps des Poètes 2020 et 2021 au Castor Astral. Hélène Lanscott est particulièrement sensible à l'oralité en littérature. Voici, entre autres, ce qu'elle dit de sa démarche sur son site. Faire entendre le silence dans le bruit du texte. Le silence qui est à l'intérieur même de la phrase. Faire entendre que les blancs entre les mots, ne sont pas des vides, qu'ils sont liens, liens de souffle. Faire entendre du sens, car les mots ne sont pas des notes. Faire entendre la syntaxe. Dresser le texte dans toute sa force, dans toute sa raison d'être. Faire entendre que confiance entière est donnée au texte. Elle dit aussi un peu plus loin, ce que dit la voix du lecteur public est du texte. Passeur de texte. Passeur d'une langue qui n'est pas sienne, mais dont avec conscience il assume le choix. Responsable de son pouvoir de rendre compréhensible ou non le texte. Parce qu'il doit, en quelque sorte, convoquer la liberté de celui qui l'écoute. Parce qu'un texte est l'expression d'une liberté et d'un engagement, parce qu'un texte est une résolution. Et plus loin encore, porter à voix haute un texte est véritablement lui donner sa voix, aussi bien dans un sens induisant un choix, une prise de responsabilité, mais véritablement être dans le don d'une voix sienne. Ainsi, cette voix sonore au timbre unique qui émane d'un corps ne peut-elle jamais être en retrouvaille avec la voix silencieuse du texte ? Elle sera autre, forcément autre. Alors, je ne peux que partager ce point de vue d'Hélène Lanscott et donc m'attacher, encore plus spécialement aujourd'hui, à être cette voix sonore, et vous donner envie peut-être de revenir dans un second temps, par la lecture, à la voix silencieuse du texte, qui sera forcément autre. Comme à mon habitude, j'ai cherché un écho musical aux 10 fragments de « Ma femme, cet animal » que vous allez entendre en continu maintenant. Et le nom de Maurice Ravel m'est venu assez naturellement en tête. Peut-être me direz-vous, parce qu'on parle beaucoup de lui en ce moment, à l'occasion des 150 ans de sa naissance, mais avant tout parce que je sens des points communs entre la musique de Ravel et les textes du recueil d'Hélène Lanscott. Ils portent tous deux un regard mêlant candeur, fantaisie et gravité, avec un certain goût pour le mystère et un désir de transcender le réel. Donc, c'est en compagnie de quelques pièces de Ravel que vont cheminer les textes d'Hélène Lanscott aujourd'hui, et j'espère que ce mariage sonnera juste à vos oreilles. Commençons, si vous le voulez bien, avec ce premier mouvement, le prélude à la nuit de la Rhapsodie espagnole. C'est Pierre Boulez qui dirige le Philharmonique de Berlin en 1993. Et pour les morceaux à venir, je vous donnerai toutes les références à la fin de l'émission, afin de laisser s'enchaîner, ou parfois se superposer, les notes et les mots. L'espérance. Ma femme espère les êtres dans les êtres, les êtres dans les choses et parfois les choses dans les êtres. Elle dit qu'elle voit le ciel dans l'oiseau, l'arc-en-ciel dans le renard, qu'elle entend la plainte dans l'arbre et le rire dans l'herbe. Nous marchons côte à côte sur le sentier du bois. Je songe à la souris dans la chauve-souris, au moineau dans le chat, à la grenouille dans le bœuf, à la parole dans le singe. Mais ce n'est pas du non dans le non, ni du manger dans le mangeant, ou du petit dans le grand que ma femme espère. Je lui parle des ancestralités gigognes, le lézard dans le jais, la musaraigne dans le marcassin, le poisson dans le serpent. Elle répète qu'elle voit le ciel dans l'oiseau, l'arc-en-ciel dans le renard, qu'elle entend la plainte dans l'arbre et le rire dans l'herbe, et que cela l'emplit, car elle-même ne sait pas très bien ce qu'il y a en elle. Je pense à toutes nos vies dans notre vie, à tous les morts dans les vivants et aux vivants dans le vivant. Je pense à ma femme dans ma vie. Nous contournons le vaste champ, l'air est de plus en plus doux. Dans ses cheveux, je discerne un vent d'inquiétude et sur ses mains des années-lumière, des années de lumière et de nuit. À sa cheville, la course d'un lièvre et sur sa joue, une plaie de fourrure. Le silence nous rejoint, sa marche me devance un peu, alors je crois distinguer, au lieu de l'écharpe de laine verte et grise qui s'enroule autour de son cou, un long et large serpent recouvert, non d'écailles mais de plumes, aux mêmes teintes vertes et grises. Le mot « boa » me vient à l'esprit. Il correspond à la taille de l'animal, mais non aux plumes légères et frivoles qui lui sont ordinairement associées. Ces dernières s'agencent parfaitement, comme chez n'importe quel oiseau. Quelques pas plus loin, je vois le reptile se desserrer lentement, puis se réinstaller plus confortablement sur les épaules de ma femme. Sans se retourner, elle me tend la main pour que je me rapproche d'elle et nous poursuivons notre promenade, tous les trois. La cage. Ma femme n'est pas une femme d'intérieur. La maison me semble parfois le piège dont elle est la capture. Quand, prenant son manteau à la volée, elle ouvre la porte en grand et s'échappe, des siècles d'encagement, d'actions restreintes, de jours voilés se déchirent. Quel que soit le temps, elle ne peut rester enfermée toute une journée. Il lui faut être à l'extérieur, et même, dit-elle, de l'autre côté des murs. Le plus souvent, elle ne veut pas que je l'accompagne. Ma mémoire ne dément pas qu'elle soit ici un jour entrée par mégarde, comme l'oiseau dont le vol conduit tantôt vers la prison, tantôt vers la liberté. Ou que, pareil au bourdon ou à la libellule, une curiosité l'ait attirée. Peut-être suis-je toujours cette curiosité ? Nous détenons chacun notre manière d'échapper. Il m'arrive ainsi de la surprendre, allant et venant dans le vestibule, évoluant en tracé de 8, comme si elle doutait qu'un même endroit soit à la fois une arrivée et un départ. Rares sont les insectes prisonniers d'une pièce qui ne parviennent pas à repasser par là d'où ils sont venus, se laissant guider par l'air ou la lumière. L'oiseau, entre deux cognements affolés au carreau, se pose. Elle, à petits pas, tente d'apprivoiser chaque issue. Aujourd'hui, ma femme est sortie par la fenêtre de la cuisine. Elle a enjambé le chambranle et a posé le pied dans la courette. Tel le chat qui, à peine la patte dehors, se défait de sa domesticité, j'ai instantanément observé chez elle de notables changements. Ainsi, elle respire profondément, puis se met à regarder fixement les nuages. Ensuite, elle sent une fleur, palpe la feuille d'une plante ou étreint le tronc d'un arbre. Mais ce soir, elle m'a demandé de l'enfermer dans l'ancien chenil. Elle dit vouloir éprouver concrètement la privation de liberté. L'imagination ne suffit pas, me confie-t-elle, ni même ses rêves où, en aveugle, les mains éprouvent les limites d'un réduit obscur. Je l'interroge sur la durée de cet emprisonnement. Quelques heures, une journée, une nuit. Elle répond qu'elle l'ignore, mais qu'il vaut mieux prévoir un couchage. Nous nous rendons dans cette partie éloignée du jardin où nous n'allons que très rarement. L'ancien chenil est un abri en briques avec une courette de 3 mètres sur 2, entourée de hautes grilles. Sur le chemin, elle me raconte qu'enfant, chez son grand-oncle, elle rendait régulièrement visite à 2 chiens de chasse et qu'elle s'interrogeait sur leur enfermement, tandis qu'un de leurs congénères était, quant à lui, libre d'aller et de venir et surtout de jouer avec elle. Nous avons installé un lit de camp. L'été chaud lui permet de dormir sous les étoiles. Je lui offre une petite cloche pour m'appeler si nécessaire. Je referme la porte grillagée derrière elle, mais je laisse la clé sur le cadenas. Je ne peux pas être le geôlier de ma femme. Alors que je m'éloigne, j'imagine sa main passer de barreau en barreau. Comme petite fille, elle a dû s'y risquer. Mais contrairement aux chenilles de son enfance, elle, et non des chiens, se trouve à l'intérieur. Une nuit a passé, puis une journée, puis une nuit encore. Ma femme ne me signale pas qu'elle désire recouvrer sa liberté. Mes visites sont brèves, seulement aux heures des repas. Puis s'étire la durée de son enfermement. Plus j'ai le sentiment d'être enfermée dans ma propre maison. Le souci de ma prisonnière m'immobilise. Inquiet de ne pouvoir satisfaire ses demandes, je n'ose plus sortir me promener ni m'éloigner pour aller aux provisions. Jusqu'au jour où je décide de m'évader et je rejoins ma femme dans la cage. La larme. En ces journées de grande sécheresse, ma femme décide d'abreuver la terre. Un matin que la glycine jaunit davantage, je lis sur son visage un brusque effondrement. Des larmes jaillissent de ses yeux, humectant la tartine de son petit déjeuner. Regardant par la fenêtre, je songe que ma femme pleure les oiseaux assoiffés qui semblent se dessécher sur leurs branches. Nous leur donnons pourtant à boire. Comme si la gaieté tue des oiseaux tuait sa gaieté à elle. Comme si le vivant qui se chantait dans l'oiseau mourait avec lui quand il se taisait. Je pense que, pleurer, les oiseaux acquerront l'humidité nécessaire pour pleurer les chevreuils, qui pleureront les cerfs, qui pleureront les lièvres, qui pleureront les loups, qui pleureront les abeilles. puis je me souviens qu'aucun d'eux ne verse jamais de larmes. Enfin, je me dis que, de par le monde, d'autres femmes et d'autres hommes pleuraient sans doute, les rhinocéros et les tigres, les lions et les grands singes, et tous les animaux de l'univers qui, eux aussi, mouraient de soif, et pas seulement. Ses yeux dégouttent maintenant à gros bouillons, sa tartine est totalement détrempée. Ma femme commence à ressembler à une enfant inconsolable. Je vais chercher un grand bol dans le placard et le pose devant elle. Ensuite, je lui raconte une histoire. J'invente qu'un jour, dans un musée, j'ai vu une larme de bête figée dans de l'ambre solidifié. Cette larme fossile révélait qu'autrefois, les bêtes pleuraient. Ma fable ralentit un temps le débit de ses pleurs, puis ils reprennent de plus belle. Je lui indique simplement de bien pleurer dans le bol, parce qu'aucune de ses larmes ne doit se perdre, et que je compte les verser au fur et à mesure dans un récipient plus profond. J'ajoute que de tout ce que notre corps rejette, seules nos larmes ne nous répugnent pas, sans doute parce que leur salinité évoque notre antériorité maritime, quand, il y a des milliards d'années, nous n'étions que des éponges gorgées d'eau de mer. Recueillir celle de ma femme me paraît une coutume antique et salvatrice. Quand le bol se remplit, elle me dit de donner à boire aux oiseaux, que seules ses larmes étancheront leur soif. Elle croit en leur pouvoir. Ses paupières sont alors si gonflées et si rouges que ses yeux disparaissent comme avalés. Je mets un autre bol devant elle et vais déposer le premier dans notre jardin. Une fois rentrée, je m'assois de nouveau à ses côtés et lui raconte une autre histoire. Celle d'un petit garçon qui clamait aux vaches, aux chiens, aux chats, des paroles épouvantables. Bien évidemment, à l'écoute de ces insultes, aucune larme de rage, de dépit ou de tristesse ne perlait jamais au coin des yeux des bêtes. Tandis qu'à la fin, c'était toujours l'enfant, moi, qui éclatait en sanglots. Ma femme pleure tout le jour et les jours suivants. Une quantité d'eau considérable grâce à laquelle je peux désaltérer les oiseaux et d'autres petites bêtes. Combien de litres de larmes le corps de ma femme contient ? Un soir, pourtant, elle se tarit. Poussant le bol vide devant moi, elle me demande subitement pourquoi, moi, je ne pleure jamais. Je n'ai toujours pas répondu quand il se met à pleuvoir. L'odeur. C'est le printemps. Un baiser court parmi les feuilles. Ma femme dit que, même collé à nos pupilles, l'avenir palpite hors de nous. Bien sûr, nous avons eu 10 vies et davantage, et nos souvenirs s'éloignent de nous, mais sur notre épaule oscille un baluchon de senteur capable d'en réanimer beaucoup. Dans mon baluchon, elle et moi respirons mêmes odeurs d'immortelles, de menthe poivrée, de chèvrefeuille, de buis. Armoise et rhizome d'iris, telles sont les tonalités principales du parfum de ma femme. Je les hume parfois sur l'une de ses écharpes ou sur une de ses vestes dans la penderie. Son inscription invisible flotte au-dessus du lit, se réfugie dans un tiroir de commode, s'attarde sur un foulard de l'entrée. Même coupée, une rose conserve un temps son parfum. Je me laisse surprendre à remonter sa piste olfactive, à tenter de pièce en pièce de retracer ses parcours. Non qu'elle se parfume à outrance, ce sont juste des notes ici et là. Elle marque un territoire dans lequel je m'immisce volontiers, un espace où elle seule se repère, s'arrête, suit ses voies. Un territoire devenu sien par les senteurs qu'elle lui octroie, pareil aux bêtes dont les marquages n'ont pas pour but de les repérer, mais d'apprendre qu'elles existent. Ce soir, ma femme existe plus que jamais. Son corps émet une odeur puissante, inhabituelle, une odeur complexe, capiteuse et surtout musquée qui l'enveloppe tout entière. Je n'ai jamais senti d'assez près une lionne, une biche et encore moins une louve pour identifier une quelconque correspondance. En revanche, je sais que sa peau n'exhale en aucun cas l'ovin ou le caprin. Dans le lit, alors que je devrais m'écarter d'elle, pris de nausée ou même de répulsion, je me rapproche, au contraire, irrésistiblement attirée par ce que j'imagine respirer comme une humeur antique ou même antéhistorique. Cette nuit-là, ma femme est une Vénus du Paléolithique. Elle me prend entre ses bras ronds, ses cuisses charnues, jusqu'à m'étouffer, enivré. Le nom. Ma femme connaît le nom des plantes et des animaux. Elle dit que, grâce au nom, elle possède davantage de regards. Elle dit qu'il est des noms de bêtes qui ne se prononcent pas parce que nommer serait comme appeler, et alors craindre qu'elles surgissent à l'instant de la forêt. Et d'ajouter qu'une incrédulité la saisit parfois quant à exister vraiment quand on la nomme « elle ». Pourtant, elle sait bien que bêtes et plantes ignorent qu'elles ont un nom. Elle me demande si j'ai prononcé le nom d'un animal aujourd'hui. Je lui réponds que non, et je songe aux fées dans Peter Pan auxquelles il faut croire pour en empêcher l'extinction. Je lui dis qu'il y a sûrement des bêtes qui s'éteignent avant même qu'on leur ait donné un nom. Pour celles-là, aucun souvenir de figure, de squelette, de plume ou de carapace. Elle m'assure que peuvent toujours demeurer dans l'air la note du chant de l'oiseau, la laine du fauve dans la nuit, le souffle d'un battement d'ailes, quelques empreintes imprimées dans la glaise. J'envisage d'énumérer ce qu'elle gardera de moi, mais elle questionne le goût de son nom dans ma bouche quand je le prononce. S'enrobe-t-il d'une familiarité sucrée ou salée ? Se mêle-t-il d'attachement ? Se teinte-t-il de reconnaissance et dans lequel des deux sens du terme ? M'aide-t-il à la distinguer dans l'obscurité comme la floraison d'un arbuste aide à l'identifier ? La nommer, comble-t-il l'écart entre elle et moi ? Ou au contraire, favorise-t-il les distances ? Je prononçais à haute voix son nom, lentement, avec toute la pensée d'une première fois. Surprise, elle m'a regardée comme si j'énonçais le nom de quelqu'un d'autre. L'ombre. Je m'assieds régulièrement auprès de l'érable. J'observe les allongements, les raccourcissements de l'ombre de cet arbre. Jamais plus petite que lui. Et la mienne, par la sienne avalée. L'ombre de ma femme, je l'ai vue prendre bien des figures. De la traîne amoureuse à la poupée désarticulée. De l'ourlet gonflé sous chacun de ses pas à la géante statue. Ou encore, feutrant les alentours hostiles, glissant sur toute chose, les buvant d'un seul trait, bégayant sous un ciel chahuté de nuages. Parfois, nos deux ombres se rejoignent, éprises. Nous jouons à nous effrayer. Laquelle amputera l'autre en premier ? Un soleil d'automne brille dans l'air frais. Nous marchons sur le sentier, coupant le pré en deux. Ma femme augmente son allure, me précédant de quelques mètres. Son ombre n'est pas son ombre, mais celle d'un sanglier. Elle se retourne, l'observe, puis me sourit. Je comprends que son sanglier va la suivre tout au long de la promenade. Mais sur le chemin du retour, au dernier champ, à proximité de la maison, son ombre sanglier la quitte. On ne surveille pas assez son ombre, ce fil au bout duquel on se regarde naître, qui s'épaissit quand il nous prend un geste, une attitude. Il faut être là, à l'affût de soi-même. En fin de journée, lorsque ma femme saute par-dessus une flaque d'eau, il me semble apercevoir, attachée à elle, la silhouette d'un écureuil bondissant. Nos ombres mettent-elles du temps à nous ressembler ? Sont-elles le figuré de ce que nous croyons ou désirons être ? Notre excès ? Ou n'ont-elles de cesse d'aller vers elles-mêmes ? Peut-être sont-elles simplement des pensées auxquelles on s'attache et qui finissent par nous attacher à nous-mêmes ? Après tout, notre ombre provient de notre limite, non de plus loin. Selon la luminosité, la sienne offre un bestiaire qui ne se contente pas de dessiner des bêtes familières. Il arriva qu'un jour de lumière blanche se profila à son côté la découpe caractéristique d'une licorne. Sans son gnomon, un cadran solaire ne donne pas l'heure. Sans ma femme, je ne distinguerai pas la silhouette des animaux qu'elle admire. Le soir est de pleine lune. Son éclat entre par les carreaux. Alors je crois qu'au jour, on ne peut tout donner, qu'il faut aux nuits garder yeux agrandis pour voir de quel argent elles enluminent le monde et notre corps. Ma femme a son ombre de hibou auprès d'elle. Au matin, je la questionne. Sait-elle si ces ombres animales sont masculines ou féminines ? Elle me désigne la forme effilée qui s'allonge devant elle et m'affirme qu'il s'agit d'une renarde. Elle est apparue, n'a duré que quelques secondes. Mon corps a projeté l'ombre d'un orang-outan. Un nuage a surgi, le ciel s'est fané, et cette ombre qui m'a répondu, sais-tu ? Le rebrousse-poil. Ma femme s'interroge sur ce qui donne sens au vent. Sont-ce ces infimes choses qu'un quotidien agite, soulève puis dépose ? La percée du temps derrière les heures, de feuilles sous le bourgeon, d'écorce sous le doigt, de ciel sous le nuage, indiquerait un sens. Et dans ce cas, chaque herbe couchée, chaque branche tombée, chaque vitre cassée emporterait la marque, en indiquerait la direction. Tout en m'appliquant à lisser la fourrure de notre félin affalé sur mes genoux, je lui réponds que nos existences comptent différents sens, que parfois nous devançons, suivons ou même égarons. Mais comment savoir si le sens pour s'extraire est le même que celui pour habiter ? Demande-t-elle en s'approchant. Doucement, elle fourre sa main dans le pelage et méthodiquement le contrarie. « Et que fais-tu du contresens ? » ajoute-t-elle en ébouriffant davantage notre chat. Je lui rétorque que le rebrousse-poil peut offrir du sens, mais certainement pas dans la tête de ce chat. À l'instant même, ce dernier confirme en plantant dans mes cuisses ses 18 griffes dans le bon sens. Thank you. La mue. La mue de ma femme s'étale sur le massif de rhododendron. Autrefois, j'en avais découvert une au pied de notre lit, entremêlée à ses chaussettes. Déjà un peu sèche, celle-ci montre une pâle opacité de mica, une finesse de peau de vipère. On dirait une buée solide. J'effleure cette enveloppe. Je palpe le dessin du ventre, le relief des seins. Je la soulève légèrement et découvre la fente de la colonne par où elle s'est extraite, comme d'une moulante combinaison. Je ne décèle pas trace de son visage. La mue s'arrête au cou. Toute la journée, j'observe du coin de l'œil ma femme. Je ne vois pas qu'elle ait grandi ou forci, pas plus que je ne remarque un changement de physionomie. Elle a seulement l'air un peu fatiguée. Quand nous nous croisons dans le couloir, je la prends brusquement dans mes bras, j'embrasse sa joue, son front, ses lèvres, et je les retrouve telles qu'auparavant. Seule peut-être sa gorge et ses mains me paraissent plus douces. Elle fait mine de s'étonner de cette tendresse soudaine, puis me sourit. J'ignore de quelle ancienneté ma femme s'est délestée. Elle qui ne repasse pas son temps, qui garde ses admirations dans leurs plis, ses surprises en figure chiffonnée. À table, je lui découvre bon appétit. J'ose alors la questionner. Cela est-il douloureux? Y a-t-il un risque de mort? Reposant doucement sa cuillère dans son potage, elle dit simplement « Oui ». La voix. Ma femme dit qu'elle aime identifier les bêtes à leur seule voix. Jouer à les reconnaître sans même les apercevoir, cacher qu'elles sont dans les fourrés ou le haut des arbres. Elle avoue que le jeu est parfois difficile. Ainsi, elle n'aurait jamais associé hoquet grave et écureuil si l'animal ne s'était pas montré. Elle dit aussi qu'il est des voix de l'aube et des voix de la nuit. Et qu'entendre l'animal invisible rend celui-ci infiniment vivant. Avec l'obscurité, la proximité de la chouette lui offre, sans le savoir, une cadence de vie paisible. Et cela l'amuse de penser que, peut-être, à un cri de houspillage, elle répond par un élan d'amour. Saisie d'une brusque inspiration, je lui raconte l'histoire de ce couple d'oiseaux unis pour la vie, dont l'un abandonne sa voix pour acquérir celle de l'autre quand celui-ci meurt. Et j'ajoute que se départir de son empreinte vocale signe une preuve d'amour irréfutable. Ma femme me prévient que si je disparais avant elle, elle ne tentera en aucun cas d'imiter ma voix. Même les jours de grande tristesse. En revanche, elle la gardera comme un chant. Oui, comme un chant. Elle chantera ma voix. la présence. Une brise soulève légèrement le voile de mousseline vert d'eau de sa robe, découvre ses genoux. Ma femme somnole dans une chaise longue au soleil. Tout palpite autour d'elle, jusqu'à son ombre qui, dans sa ressemblance, vibre. Ma femme vit dans l'air que je respire. Nos jours nous apprennent nos nécessités. Ainsi son besoin d'animaux, qui de sa présence n'ont nul besoin. L'indifférence de la gent animale à notre égard se justifie, dit-elle. Nous n'avons que trop de mépris pour elle. Je suis assis dans l'herbe à son côté. Elle prend ma main dans la sienne et m'affirme qu'elle naît chaque jour de cet endroit, de ces chênes, de ces oiseaux et de cerfs qu'elle n'a jamais rencontrés dans un face-à-face, de ce champ d'herbes très folles aussi, qui ont la folie d'être ensemble, qu'il s'agit là d'amour. Elle ajoute qu'elle comprend sa crainte de mourir étouffée, car mourir ainsi reviendrait à ne plus ressentir un vaste en soi. Cette formidable dilatation du cœur qui tente d'accueillir une nature démesurée. Je sens ses doigts trembler. Un vacillement a lieu en elle, et ce n'est pas la terre qui tremble. Ses épaules frissonnent, ses jambes frémissent. Je voudrais glisser de la douceur sous ses pieds. Je l'entends murmurer qu'il y aura toujours du vivant dans le monde, caché dans son jour ou dans sa nuit, le temps qu'il faut. De l'animal qui, dans sa vue, ne se voit pas comme elle, dans son cœur, ne bat pas comme le sien. Disant cela, elle serre ma main. Je hume profondément son parfum de menthe, sa chaleur poivrée. Je me promets de ne pas renoncer à sa présence. Une fin en apothéose, et c'est justement le terme employé par Ravel pour ce morceau de Mamerlois, le jardin féerique. Auparavant, à la suite du prélude à la nuit de la rhapsodie espagnole, vous avez pu entendre successivement la chanson « Trois beaux oiseaux de paradis » interprétée par les saxophonistes du quatuor Zahir, la deuxième pièce de « Miroir » intitulée « Oiseau triste » interprétée par Bertrand Chamaillou, le deuxième mouvement du concerto Valse noble et sentimentale avec Christian Zimmermann au piano et l'orchestre de Cleveland dirigé par Pierre Boulez. Mêmes interprètes pour le morceau suivant, issu de Mamerlois, l'aidronette impératrice des pagodes. Une seconde chanson intitulée Ronde, toujours par le quatuor Zahir. Et enfin, le deuxième mouvement de Gaspard de la Nuit, intitulé Le gibet, avec Bertrand Chamaillou au piano. J'en reviens maintenant aux deux rendez-vous de la semaine prochaine avec Hélène Lanscott. Ce sera tout d'abord le vendredi 28 mars de 14h à 16h, une rencontre au centre psychothérapique de l'Ain, salle Molière, avec une lecture à voix haute par Hélène Lanscott, suivie d'un atelier d'écriture animé par elle. Et le lendemain, samedi 29 mars, de 10h30 à 12h30, elle sera à la médiathèque Vaillant pour une lecture-rencontre à laquelle s'ajouteront quelques surprises littéraires, visuelles et musicales que vous découvrirez au cours d'une déambulation au sein de la médiathèque. Vous retrouverez ces informations dans le programme de Voix Mêlée, disponible dans tous les lieux culturels de Bourg-en-Bresse et en ligne sur le site internet du Théâtre Arphonème. Sur ce même programme, vous trouverez aussi une référence à la semaine buissonnante du CRD, le Conservatoire de Bourg-en-Bresse, un événement auquel participe Voix Mêlée du 31 mars au 5 avril. Les activités déployées exceptionnellement cette semaine-là s'adressent aux élèves du CRD, mais également à tout public, et il reste des places si cela vous intéresse. J'ai proposé d'animer deux types d'ateliers à différents horaires, un atelier d'écriture et un atelier de lecture à voix haute. Je précise que ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous, sans aucun prérequis. Vous êtes donc les bienvenus. Il vous suffit de réserver votre place en ligne à l'horaire qui vous convient sur conservatoire-grandbourg.fr. conservatoire-grandbourg.fr. Enfin, pour ma prochaine émission, je vous donne rendez-vous au jeudi 17 avril. À bientôt.
Ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli.